Chronique extraordinaire de vie ordinaire. Il a encore gelé avant l'aurore. Le quartier est recouvert d'une blancheur silencieuse et immobile. L'herbe de la pelouse du petit jardin de Marie scintille de 1000 paillettes gelées. Marie, elle habite sa maison depuis plus de 20 ans. Elle ne va pas être obligée de gratter le pare-brise de sa voiture ce matin. Elle a arrêté de travailler dès qu'elle a su qu'elle était carrière longue. Ça lui a fait bizarre ce mot. Sa vie, elle ne l'a pas vue passer. Elle ne l'a pas trouvée si longue. Et elle a changé tellement souvent de métier que sa mémoire regorge de tiroirs plus ou moins bons à ouvrir. Marie, elle a décidé qu'elle allait profiter de sa liberté rémunérée, certes chichement, mais qui lui permettra de vivre correctement. Pas assez pour faire de grands voyages ou se payer une nouvelle voiture, mais au moins pour se chauffer, se nourrir, inviter ses enfants et ses copines de temps à autre et partir à la mer en camping une fois par an. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que Marie, sa première bouffée d'oxygène, elle l'a respirée dans un quartier à la marge de l'insouciance. Et elle sait ce que ça veut dire, de manquer. Ses parents, ils avaient quitté le bout de la terre qui s'étend à l'ouest, après la guerre, pour travailler en ville. Ils avaient atterri dans un baraquement pour famille en errance. Les factures, malgré le travail de soudeur de son père et d'ouvrière de sa mère, n'avaient pas toujours été payées. La police un jour était arrivée avec un camion qui avait chargé les quelques meubles. Marie avait gagné un cadre à 1 € lors d'une fête d'anciens combattants. Le cadre aussi avait fini dans la benne du camion. Avec les frères et sœurs arrivés au fil des ans, un logement dans une cité de transit leur avait été accordé. Là, le transitoire était devenu permanent. Ici, c'était un havre de paix. Au moins, il n'était pas différent des autres. Il venait des mêmes profondeurs et savait ce que le manque peut faire au corps qui défaille. Sa mère avait sombré. Son père, ouvrier sans voiture, avait du mal à se rendre sur les chantiers de la région. Les dettes s'étaient accumulées. Sa mère, pour payer les factures, avait fait des chèques sans provision et avait été condamnée à quelques mois de prison. Elle n'en avait jamais parlé en sortant de sa vie derrière les barreaux. L'alcool était devenu son compagnon le plus proche. Marie, elle a arrêté l'école tôt. Cette école où elle était la fille de la criminelle en prison, considérée comme un cas social. Pourtant, elle aimait apprendre et plus que tout écrire les phrases du jour sur son cahier immaculé. Elle avait utilisé son intelligence en faisant les devoirs des enfants des familles aisées qui, en échange, lui donnaient leur goûter ou quelques fournitures scolaires. C'était sa façon à elle de résister, d'avoir une emprise sur eux, les bien-nés. Une maîtresse un jour lui avait dit qu'elle était sale et qu'elle pourrait peut-être devenir gardienne de vaches si son troupeau n'était pas trop grand. L'école n'avait pas voulu d'elle et cette blessure n'avait jamais cicatrisé. La colère s'était ancrée.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar. Que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Elle était partie en classe de transition, avait abandonné l'école à 15 ans, avait eu son premier enfant à 17 ans. Pas par accident, non, mais par amour, pour un homme dont la famille l'avait rejeté et qu'elle avait continué à voir en cachette pendant longtemps. Elle avait travaillé en usine, s'était fait des copines, avait loué un appartement dans la nouvelle cité à proximité de celle où elle avait grandi. Avec ses frères et sœurs, Marie n'a jamais parlé des difficultés de l'enfance, enfance qui n'avait jamais été heureuse ni malheureuse. Elle sait que ce qui leur appartient, rien qu'à eux, qui ne pourra jamais leur être arraché, c'est leur souvenir, précieux, et qui les liait à jamais. Aujourd'hui, Marie va retrouver ceux qui lui ont redonné le goût de l'autre. C'est l'anniversaire de l'association qu'elle a rejointe grâce au père Grégoire. À l'époque, quand elle avait rencontré l'association, elle était adolescente. Il les avait emmenés, elle et d'autres jeunes, à la plage et au théâtre pour la première fois.
Ils étaient ensuite allés à un regroupement de jeunes de tous les pays. Pendant plusieurs jours, ils avaient chanté, fait du théâtre, parlé de leur vie dans les quartiers, parlé de l'école et de ses injustices. C'est là qu'elle avait entendu le père Grégoire pour la première fois. Lui aussi, il venait du monde de ceux qui ne sont rien. Et il était venu leur dire qu'ils n'étaient pas des voyous, qu'ils étaient tout, riches de leur force de vie, qu'il fallait s'unir pour refuser la misère, que leur courage dans la survie méritait un regard digne. Ces mots, posés avec fougue sur la souffrance, avaient fait mouche. Elle avait compris qu'on pouvait se libérer par le savoir, la connaissance. Elle avait décidé de ne plus jeter l'encrier et de gagner sa liberté. Elle avait rejoint le mouvement. Elle est toujours permanente, 25 ans plus tard. Elle sait qu'il ne faut pas tricher, ne jamais abandonner, que face aux plus démunis, on ne peut pas être faux ou médiocre. Son engagement, c'est qu'une porte ne doit jamais se refermer. En arrivant à la permanence aujourd'hui, pour préparer les festivités, elle retrouve ses compagnons volontaires. Et dans un coin, assise sur un tabouret en plastique, elle aperçoit Odette. Odette, la première fois que Marie l'a rencontrée, c'était dans un petit studio avec ses deux enfants. Ses deux autres enfants avaient été placés. Marie lui avait demandé, ce jour-là, de quoi elle rêvait. Elle pensait que la réponse allait de soi. De quoi nourrir ses enfants, avoir un logement décent. Odette, ce jour-là, ce dont elle rêvait à cet instant-là, c'était d'aller chez le coiffeur, parce qu'elle n'y était jamais allée, et qu'au moins, elle pourrait sortir la tête haute, parce qu'elle serait belle. Odette est venue donner des nouvelles des enfants. Ils sont revenus chez elle après les démarches de l'association. Elle a apporté quelques assiettes et couverts pour le repas de fête. Marie lui propose de donner un coup de main en cuisine. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y aura environ une centaine de personnes, familles, parents, enfants, et invités de marque, comme on dit. Ceux qui décident de ce qu'il faut faire pour ceux d'en bas, ceux qui décident de l'endroit où l'argent ira, après avis de cabinet conseil, au dossier bien rempli à coups de tableaux Excel et de PowerPoint éclairants, les décideurs aux orientations locales, des plans à long terme, des objectifs de résorption de la grande précarité dans les QPV en lien avec des opérateurs efficients. Ces mots, propres sur eux et très opaques, qui donnent de l'importance aux cravatés aux dents ultra bright, comme Marie se plaît à les désigner. Ces mots sont ceux qui, à force de voir les autres minuscules, rapetissent eux-mêmes. Marie, elle s'est occupée un temps de la délégation générale de l'association. Elle aussi, elle a rempli des dossiers dans un bureau. Mais aujourd'hui, elle sent le besoin pour le mouvement de revenir dans le quotidien de ceux dont elle ne s'est jamais vraiment éloignée. Ne pas laisser à ceux d'en bas le sentiment d'être oubliés. Car si même eux s'en éloignent, ceux d'en bas disparaîtront des radars totalement. Et laisser les puissants, les arrogants seuls et vaincus, elle y croit encore, Marie. Mais pour ça, il ne faut pas être dans l'à peu près avec ceux d'en bas, mais à fond. Ne rien lâcher jamais. Car la ténacité, c'est leur seule arme pour continuer à exister aux yeux du monde. Marie et Odette, elles se mettent au fourneau en grand éclat de rire et commencent à préparer un pot-au-feu géant dans des gamelles énormes. Les légumes, ils viennent du jardin collectif, derrière chez Odette. Son fils aîné fait des études d'horticulture. C'est lui qui a eu l'idée du potager. Il s'en occupe tous les jours. Alors, bien sûr, il a fallu remplir un dossier de demande d'autorisation et de subvention pour le faire vivre, le potager. Alors, bien sûr, il a fallu deux rencontres avec l'adjoint en charge du dossier, 6 mois d'attente avant son ouverture. Mais jamais ils n'ont lâché. Pour quelques légumes et beaucoup de fierté. Aujourd'hui, pour la première fois, les légumes finiront dans l'assiette de tous et toutes, et chacun, sans distinction, les savourera, égaux devant le délicat fumet qui émanera du travail de quelques-uns, de ceux qui ne sont rien, mais font partie de tout. Et à cet instant, avec Marie et Odette, affairés avec passion devant leurs gamelles en inox, prêtes à nourrir la terre entière sans distinction, rien ne vaut la vie, en cette journée d'hiver gelée qui recouvre les pelouses de paillettes scintillantes.
Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, hacer nos vies sur une grille d'accord. Oh non 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 non, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, hacer nos vies sur une grille d'accord.
Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.